oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai de compagnie au cas de l'engage. Je pense qu'en combinant les deux, la chose de maîtrise qui va trouver une solution par rapport à ça.
De vous joindre à nous pour cet échange de paroles aux auditeurs. Le lundi 22 février dernier, le directeur des cabinets du chef de l'État a présenté à la presse le plan stratégique national de développement pour la République démocratique du Congo. Ce plan est axé sur l'industrialisation des secteurs de base, le développement du vaste terrain agricole et l'amélioration de la productivité du secteur minier et industriel. Il prévoit également la création des zones économiques industrielles qui permettront la création d'emplois et la substitution des importations. Selon vous, comment peut-on arriver à capitaliser ces priorités? Rejoignez-nous au 081-890-6340 pour vos interventions en direct, mais également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jérôme Gembo est à la réalisation et la coordination de cette émission mise en œuvre par Alain Gaulle. Je lui fais un bon goût pour les contacts avec vous au standard. Et Pierrot et la Mégie vous la présente sous la supervision de Martin Saboujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
En collaboration avec l'Agence coréenne de coopération, bien sûr, la présidence de la République a rendu public le plan stratégique national de développement de la RDC pour faire de ces pays un pays émergent à l'horizon 2030-2035. Ceci est parti d'une visite effectuée par le chef de l'État congolais en 2010 en Corée, où il avait sollicité de son homologue sud-coréen le partage de l'expérience du premier de la Corée du Sud, bien sûr, par rapport à son développement. Et les experts coréens sont venus à la rescousse de la RDC pour élaborer ces plans national de développement qui pourra être mis en place et exécuté en vue de faire de la RDC ces pays émergents à l'horizon 2030. Alors, la question c'est aujourd'hui comment arriver à capitaliser ces priorités définies dans ces plans stratégiques de développement du pays. Et pour réfléchir sur cette question, nous avons associé à cet échange dans ce studio Al Kitingé. Al, vous êtes analyste économique, bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher ami, je suis analyste économique, je suis stratège, donc je suis là dans mon affaire.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que il y a eu quand même le plan naturel avec le gouvernement Matata qui a un plan qui a été, disons, le programme de gouvernement approuvé par le Parlement dernièrement? Voilà, dernièrement, il y a eu la mise en place de PEG, le programme élargi. Il y a eu dernièrement les 28 mesures urgentes prises par le gouvernement pour relancer l'économie, le développement. Et maintenant, un plan stratégique. Il y a d'un côté les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté. Voilà, ça veut dire qu'il y a autant de programmes, autant des stratégies. Est-ce qu'on peut dire à un certain moment, on risque d'avoir embrassé beaucoup de choses qui peuvent des fois ne pas permettre à la population où nous allons effectivement pour assurer notre développement?
Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être votre invité.
Oui, on va revenir à vous, on a discuté ceci, je crois bien, avec micro. Tout à l'heure, on revient à vous.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Capitouf, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capitouf, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, elle se promène, c'est bon avec votre micro, mais je vais vous faire bien. Voilà, c'est très bien. Allez, vous pouvez y aller par rapport à cette inquiétude que j'ai présentée autour de la multitude de programmes qu'on peut dire pour le développement du pays.
Pierrot, je suis un homme heureux aujourd'hui et j'espère beaucoup qu'au cours de ces 50 minutes, nous allons arriver à faire comprendre aux Congolais que rien de pareil ne s'est jamais fait dans ce pays. Je suis parmi les gens qui, pendant 10 ans, ont essayé de tirer la sonnette d'alarme pour dire si vous n'avez pas une boussole, si vous ne savez pas où à long terme vous allez, il est très difficile de faire du court terme cohérent. Et donc là, à la différence du DSRP 1, 2 et de nouvelle génération et de tous les autres programmes généralement à 3 ou à 5 ans, nous sommes là pour la toute première fois dans une projection stratégique. Et comme vous rendez bien compte, ici, l'écart est de 15 ans. On dit 2015-2030. À échéance, nous devrons même faire une deuxième étape qui est celle de 2015 à 2045 pour être en mesure de planifier un certain nombre d'activités de base. Je donne une illustration simple. Si on voudrait parler industrialisation, il faut donc de l'énergie. Et nous, nous sommes le poumon mondial de l'énergie. Nous avons près de 106 000 mégawatts et 44 000 sur un seul site qui est celui de Inga. Rien que construire les installations, c'est 10 ans. Ça veut dire que si nous mettons ce programme dans le programme de 15 ans, ça devient trop court. Et donc, c'est très bien ce que nous avons fait. C'est la première fois, c'est la toute première fois que ce pays se dote d'un plan national stratégique qui dépasse la mandature, qui dépasse l'ambition personnelle de la personne qui met ce programme au niveau de la nation. Et je voudrais ici faire la différence entre le DSRP, qui est en fait des plans de réduction de pauvreté, qui sont un, deux ou celui de deuxième génération, comme nous l'ont appelé, et ce plan qui est en fait un plan de développement. C'est toute la différence. Ici, tous les rêves sont permis. Ici, toute l'intelligence collective est appelée à contribuer. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un programme du PPRD ou de la majorité présidentielle. Il s'agit ici d'un programme national. C'est un appel fondamental que je voudrais lancer ici pour que les intellectuels congolais, les analystes congolais, les politiciens congolais de tous bords s'approprient ce document. Qu'ils le cultivent, qu'ils le passent en revue, qu'ils l'enrichissent et qu'ils lui donnent le maximum parce que ça devra devenir la Bible de la République démocratique du Congo, qui que ce soit qui vienne au pouvoir. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est la première fois de toute l'histoire de la République démocratique du Congo où nous avons un plan national stratégique qui est censé nous dire où est-ce que nous voulons aller dans les 30 ans qui viennent, dans les 15 ans qui viennent, et sur base duquel on devra faire les plans de 5 ans, de 10 ans pour être en mesure de rester cohérent. Quel est le problème que nous avons en général? C'est que programme après programme, les efforts des uns annulant les autres, les gens ont tendance à faire des choses rapides pour être visibles. Et ça, c'est des besoins politiques. Mais lorsqu'on est dans la stratégie, les besoins sont différents.
Voilà. Mais quand on regarde dans notre histoire, vous l'avez dit, c'est pour la première fois qu'on a un plan stratégique national, mais il y a eu quand même dans l'histoire du pays, que ce soit pendant la Deuxième République, on a eu toute la stratégie de développement du pays définie dans le manifeste de l'enseignant, on a eu les objectifs 80, on a eu, mais on a toujours le même problème d'avoir deux plans sur papier. Mais comment les intégrer dans l'appropriation, dans l'exécution? Et c'est même la même difficulté qu'on a connue, que ce soit avec les DCRP, les PEG, tout ça, c'est de les mettre sur papier, de les présenter au public, mais enfin, de s'arrêter juste à la présentation.
Votre question est d'une pertinence incroyable et je voudrais y répondre de manière simple. Je disais tout à l'heure, il s'agit là d'un plan qui dépasse les partis politiques. Il s'agit d'un plan qui dépasse les regroupements politiques. C'est un plan qui est censé être la Bible d'une nation qui détermine comment nous rêvons ensemble. Et donc, votre question appelle à la possibilité des Congolais de pouvoir s'approprier la vision qui leur a été présentée. Le chef de l'État s'est acquitté de son devoir. Il a fait ce qu'il pensait être bon au meilleur des performances des gens dont il s'est entouré. Maintenant, il doit jeter en pâture ce document pour que les gens le critiquent au maximum, qu'ils y ajoutent ce qu'ils peuvent, afin de ressortir une version finale qui sera celle de la République, celle dans laquelle tout le monde devra se reconnaître, celle qui déterminera le tronc commun. Et le travail qu'il a fait est remarquable, il faut être en mesure de le reconnaître. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est qu'après avoir fait un programme comme celui-là, après avoir fait un plan stratégique, il faut le décliner en programme sectoriel, c'est-à-dire secteur par secteur, qu'est-ce que ce plan voudrait dire? Mettre les relations horizontales entre les différents secteurs pour savoir
quelles sont les interconnexions et les interdépendances pour donner un plan de schéma critique pour être en mesure d'avoir des résultats, non seulement qui s'accumulent, mais qui viennent à la bonne vitesse. Autre chose, il faut trouver l'ancrage de ce plan national de développement. Qui dit plan national de développement dit plan provincial de développement. Qui dit plan provincial de développement dit plan communal de développement. L'ancrage de base, et c'est la volonté de notre constitution, c'est la commune. Il est donc très important que, de manière rapide et organisée, nous soyons en mesure de sortir les plans sectoriels qui sont en cohérence avec les plans généraux de développement, le plan stratégique, mais également que nous soyons en mesure de sortir géographiquement les plans provinciaux, mais que nous soyons en mesure également de sortir de plans communaux. Mmh. Ceci dit, quand on parle du plan, on parle de trois choses fondamentales. La vision, deuxièmement, les budgets, troisièmement, la planification. Et au niveau national, il y a donc ce besoin de matrice. Au niveau provincial, de la même manière, au niveau vertical, de la même manière, et au niveau communal, exactement de la même manière.
Mais quand on regarde les stratégies, selon, dans les points de presse du cabinet du chef de l'État, là, la présence de la République prend une grande part dans la gestion, dans les suivis, la mise en place d'une cellule nationale chargée de montage, de la gestion des projets, l'implication de la présidence dans les processus de la mise en œuvre, et autant de fois que la présidence va avoir même une cellule d'écoute des investisseurs, tout ça, on se rend compte que le gouvernement risque d'être occulté. Est-ce que n'était-il pas bon que les experts élus par les gouvernements, la présidence élaborent les projets, les plans qui soient endossés par les gouvernements? Parce que de plus en plus, quand je regarde les documents, on occulte le rôle du gouvernement, et pourtant c'est le gouvernement qui doit en principe mettre en place les plans stratégiques du développement du pays. Et de plus en plus, dans les structures qui sont présentées dans le plan, on risque d'effacer complètement les rôles du gouvernement.
Je voudrais vous reprendre et vous dire encore une fois que vous êtes là dans un problème de style de leadership. Chacun a le droit de son leadership. Et je ne voudrais pas, moi, prétendre comprendre ce que le chef de l'État et son cabinet désirent faire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est bon de savoir que si nous désirons atteindre la masse critique, si nous désirons porter la vision du chef de l'État aujourd'hui, qui est la vision de la République démocratique du Congo demain, quand on l'aura enrichi, il est important qu'on démultiplie le niveau de leadership. Je disais tout à l'heure qu'on a besoin d'avoir des leaderships verticaux, ça veut dire sectoriels. On a également besoin d'avoir plusieurs paliers de leadership horizontaux, ça veut dire géographique, et au niveau des ancrages. Ce serait incroyable que l'on pense que l'on peut piloter tout le plan stratégique national au niveau de la plus haute autorité de l'État. La plus haute autorité de l'État a le devoir du contrôle, ce qui veut dire qu'en fait, en termes d'exécution, il faut qu'il lâche. Et notre constitution et notre modèle d'organisation administrative est très clair là-dessus. Le point d'ancrage du développement, c'est la commune. Vous savez, nous avons aujourd'hui une illustration fondamentale. En passant de 11 à 26 provinces, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie de notre République où nous n'avions aucun service public. Voilà. Et ça pose toute la question du comment voulons-nous décliner de manière stratégique et opérationnelle le plan national stratégique.
Voilà, on va revenir à vous. Là, nous avons abordé les questions des formes de généralité. Tout à l'heure, on va aborder les fonds avec les priorités qui sont définies dans ces plans. Mais on écoute aussi les auditeurs. Ils sont nombreux à nous avoir rejoint au 081-890-7315. Olivier, vous êtes à Cucuté dans les Pays-Loups. Bonjour, Olivier, bienvenue. Olivier, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Bonjour Olivier.
Okay, voilà, moi je pense que c'est vraiment une très bonne idée qu'on ait un plan stratégique national. Mais je crois que nous devons avoir aussi une analyse politique de la chose. C'est vrai que c'est l'économie qui nous a recruté, mais je crois que sur le plan politique, je pourrais dire que le plan vient un petit peu en retard. Parce que nous avons eu les 5 chantiers. Et je crois que le vice est d'accord avec moi pour dire que les 5 chantiers jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le bilan. Alors, si nous devons maintenant aujourd'hui sauter les 5 chantiers, ne pas faire de bilan et présenter maintenant un plan comme une stratégique nationale pour une vision de plus de 20 ans, je pense que nous risquons d'hypnotiser les gens inutilement. Alors que, pour le moment, je crois que nous avons des priorités que nous devons traiter absolument aujourd'hui. Alors, tant que nous n'avons pas une vision claire sur les priorités du moment, je pense que même ce plan stratégique va suffire de notre non-observance des priorités du moment. Et c'est ça, en fait, la chose qui nous devons résoudre. Ce plan ne peut réussir que si nous savons obéir, si nous savons si nous savons respecter les priorités du moment et les priorités du moment, je pense que tout le monde les connaît. Et c'est ça, nous devons nous mettre d'accord sur certaines choses avant de parler des choses qui sont aussi importantes pour le pays, c'est vrai. Mais il y a des préalables, Pierrot. Malheureusement, je pense qu'on peut nous faire oublier les préalables. Et c'est là que j'aimerais que l'invité comprenne que sans les préalables qui sont minimum politiques, le plan va tomber dans l'eau. Et donc, c'est ça que je peux dire.
Oui, mais Olivier, c'est vrai qu'on a beaucoup de petits des soucis à des lits téléphoniques aujourd'hui avec une porte prise sur la ville, mais aussi, je crois, aussi ailleurs. Mais quand vous parlez des préalables, quels sont pour vous rapidement ces préalables qui doivent être, par lesquels on doit passer avant de réussir ces plans stratégiques?
Vous savez, Pierrot, aujourd'hui, tout le monde ne croit plus la politique congolaise, parce que c'est depuis novembre que nous avons le dialogue, et personne n'en parle aujourd'hui, avec décision. Alors, nous avons parlé de sélection. Personne ne donne une histoire claire sur les élections. Alors, il serait à mal de nous qu'on puisse prétendre à mener un plan stratégique qui va résoudre les problèmes de développement de ce pays. Parce que ce problème de développement ne dépendra que de notre manière de gérer la situation de 2016. Élection ou dialogue peut-être avant élection, mais il faudrait qu'on gère d'abord de façon claire et de façon démocratique cette situation avant qu'on parle de façon stratégique. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Vous estimez qu'il y a des préalables. On va revenir à vous, Al. C'est la situation politique. Hein. Il faut clarifier les jeux politiques et la question de dialogue, des élections. Si tout cela n'est pas bien clarifié, ça mettra en mal l'exécution du plan. Mais nous avons aussi un auditeur qui nous a envoyé le message par PA@radiocapi.net. C'est Gilbert Galomona. Il dit ceci: quand les bolcheviks accèdent au pouvoir, la Russie est un pays pauvre et rural, mais avec les plans quinquennaux, il en a suffi d'eux pour que la Russie soit parmi les meilleurs pays développés au monde. Si dans les 16 ans du pouvoir du chef de l'État, on n'a pas été à mesure de pouvoir booster le développement du pays par des programmes très ambitieux de ce genre, nous ne voyons pas comment, à la fin, si jamais il y a l'alternance, quelqu'un d'autre qui pourra venir, comment va-t-il endosser un autre plan pour pouvoir assurer le développement? Il y a Jean-Jacques qui nous a écrit les basolités. Je me demande si le plan stratégique du chef de l'État a un sens d'être, parce qu'ici en Afrique, les dirigeants veulent toujours le pouvoir. Quand quelqu'un d'autre pourra venir au pouvoir le lendemain, il va aussi élaborer son plan, en estimant qu'il y a eu beaucoup de failles estimées, entretenues par ses prédécesseurs. Et dans ce cas, on ne voit pas, on voit mal comment la RDC pourra avoir un plan qui puisse lui permettre d'aller dans son développement et l'émergence, mettre son ville. Vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans cet échange. On vous écoute, maître.
Allez, bonjour, M. Pierrot. Hein. Bonjour à tous les membres de l'histoire d'Ardo Capier. Hein. Bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
Oui, par rapport à la thématique, M. Pierrot, moi, je suis que les 28 mesures de priorité n'ont pas la présidence. C'est une bonne chose, mais je suis que l'heure n'est pas indiquée. Pourquoi je dis cela, M. Pierrot? Il y a d'autres priorités, puisqu'il y a un adage qui dit que sans la paix, il ne peut jamais y avoir de développement. Hormis cela, M. Pierrot, il y a eu beaucoup de plans de développement. Il y a eu quand même les 5 chantiers des choses de l'État. Il y a eu la révolution de la modernité. Où sont passés tous ces plans-là? Ce n'est qu'à la fin du mandat du président qu'on peut nous donner les petites mesures prioritaires pour le développement. Moi, je suis que non. Puisque tout cela devait se faire pendant les 15 ans. Et si nous avons, nous sommes présents depuis 15 ans, M. Pierrot, il y a eu quand même la condition, le clientélisme, la corruption, le détournement des fonds, il y a l'impunité, tous ces antivaleurs-là, si elles étaient combattues, si ces antivaleurs-là étaient combattues, on pouvait parler du développement. Ce n'est pas, et puis, si je peux encore ajouter, M. Pierrot, ce n'est pas dans cet agrément appareil que nous pouvons aller à l'application de ces 23 mesures prioritaires pour le développement. Voyez d'abord l'agrément politique. Il n'y a pas de paix. Il y a les politiciens sont menacés. Et les fonctionnaires sont menacés de suspension de licenciement. Et il y a le chômage qui a une vente de plein. Il y a des entreprises minières là où on est en train de retraiter les gens. Et comment est-ce que ces 28 mesures prioritaires et prioritaires peuvent faciliter le développement? Il y a beaucoup de préalables, M. Pierrot. Mm-hmm. On nous parle d'un certain dialogue qui n'a jamais existé, peut-être qu'il n'existera pas. La priorité pour cette année, M. Pierrot, pour qu'on parle de mesures prioritaires, ce sont les élections. Ça, c'est une. c'est juste une abomination pour une femme étrangère, monsieur le prioritaire.
Et là, maître, vous avez évoqué, vous êtes revenu sur les 28 mesures prioritaires qui ont été annoncées au mois de janvier, mais bien sûr, c'est là où nous en avons déjà parlé dans cette émission, et on est revenu aujourd'hui sur le plan rendu aussi public par la présence de la République, qui est différent, bien sûr, de ces 28 mesures prioritaires, hein, mais qui, presque, les choses se retrouvent les unes dans les autres. Mais vous estimez pour vous, comme le disait tout à l'heure notre ami Olivier Dekikuit, qu'il y a des préalables. Quand la situation politique n'est pas clarifiée, il n'y a pas de stabilité, ça sera difficile de pouvoir assurer l'application d'un plan stratégique. Mais là, vous avez évoqué les cas de détournement de fonds, l'impunité, la corruption. Ça ne peut pas permettre à ce qu'un plan puisse être réalisé. On revient à vous directement. Vous avez suivi les deux amis. Il y a une inquiétude, c'est par rapport d'abord à la clarification du jeu politique. On estime que si ce jeu politique n'est pas assez clair, c'est un préalable important pour que les gens arrivent à endosser ces plans, parce que vous avez souhaité que les gens endossent les plans ou que les gens puissent s'approprier. Mais j'ai aimé quand même ce que Olivier a parlé tout à l'heure, que les gens n'ont pas confiance à la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut s'approprier quelque chose que quand on a confiance à la manière dont les actions politiques sont menées. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap sérieux dans ce souci que vous avez présenté de s'approprier ces plans stratégiques?
Je l'ai dit plusieurs fois sur vos antennes, le drame de ce pays, c'est que tout est politique ou tout est politisé. Au point que même le cerveau des Congolais est devenu politisé. Ils voient tout en politique. Et c'est dramatique. Je veux vous dire que dans le monde entier, l'économie vient avant la politique. Les politiques ont juste le mandat de pouvoir faire fonctionner la République fonction des règles et visions qui ont été acceptées pour faire de l'économie, économie qui fait le social. Parce qu'en fait, la vocation réelle, c'est le développement humain. Et très malheureusement chez nous, nous avons une pollution politique d'une telle avancée que malheureusement, ça vaccine même les cerveaux. Nous sommes là dans un exercice qui dépasse tous les mandats possibles. Quand on dit 15 ans, même si vous avez un mandat, il n'est que de 5 ans, si vous en prenez deux, ça fait 10 ans. Donc, nous sommes dans un arbitrage qui dépasse les mandats. Et deuxième chose, il n'est jamais tard pour bien faire. Il faut que nous continuions à croire en nous. Il n'y aura pas un étranger pour venir concevoir, diriger, faire fonctionner la République. Ce sera toujours un d'entre nous. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que les 5 chantiers, c'est un programme de mandature. La révolution de la modernité, c'est un autre programme de la mandature. Et on a toujours le droit de demander des comptes à ceux-là qui nous ont présenté ces projets. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on aurait dû faire depuis les années 60, ça veut dire produire un plan général de développement humain. Où est-ce que nous voulons aller? Comment voulons-nous être dans ce pays? Nous avons une espérance de vie de 50 ans. C'est anachronique. On ne peut pas s'en tenir à ça. Nous n'avons que 16 à 18 000 médecins dans ce pays. C'est des choses auxquelles nous devons donner des réponses. Aujourd'hui, près de 70% de notre population ne sait pas lire et écrire correctement. Il faut donc donner des réponses à ce genre de choses. Et on ne peut pas les faire en regardant 5 ans. On doit les faire en regardant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, il était très important que nous ayons un plan de cohérence. Et le plan national stratégique répond à cette question. Elle va au-delà des individus. Il faudrait qu'on arrête dans ce pays à réfléchir en fonction des individus. Les gens qui ne voient que les élections ne voient que les individus. Avant de parler des individus, il faut regarder qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment nous voulons le faire. Ça nous permet de faire du casting et de choisir le meilleur d'entre nous pour faire ce pour quoi nous sommes d'accord. Donc, il est important de mettre la nation avant les personnes.
Voilà, on risque de s'éterniser autour de défendre l'importance du plan, mais entrons maintenant à l'intérieur. Nous avons pris quelques éléments. Les plans mettent l'accent sur l'industrialisation des secteurs des bases, le développement du vaste terrain agricole et l'amélioration de la productivité du secteur minier et industriel. Voilà. Si nous prenons ces quelques éléments, ce sont les éléments qui doivent s'accompagner d'un plan du développement de l'énergie. Et pourtant, c'est là où se pose effectivement notre problème aujourd'hui. On ne peut pas atteindre tout ce développement sans avoir réfléchi sur de quelle manière nous devons avoir une énergie qui nous accompagne dans ça. Et pourtant, c'est ça notre grand problème aujourd'hui.
Et c'est là que je vous l'ai dit. Un plan stratégique national, il a comme objectif de donner la vision et les grandes orientations. Après, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des plans sectoriels. Un des secteurs, c'est l'énergie. Et après, il faut faire une corrélation entre les différents secteurs. C'est comment l'énergie va être le levier de l'industrie. que ce soit l'industrie minière, que ce soit l'industrie agro-industrielle, je veux dire l'activité agro-industrielle. Et donc, il y a un deuxième palier du travail à faire qui lui sera détaillé. Après, j'ai dit encore une fois qu'il faudra être en mesure de produire des plans provinciaux, puisque toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts et n'ont pas les mêmes défis. Il faudrait que nous soyons en mesure de localiser la vision générale et la cohérence entre les différentes provinces au niveau des provinces. Après les provinces, il faut revenir à l'ancrage communal pour qu'aucun Congolais ne soit mis sur le trottoir, pour que tout le monde soit en mesure, à la différence des petits plans que l'on a eu par le passé, soit en mesure de mettre les Congolais à la même distance vis-à-vis de l'État et des services publics. Et donc, le travail ne fait que commencer. Moi, j'en appelle toutes les universités à produire leur version de contribution. J'en appelle aux intellectuels à pouvoir créer des cercles de réflexion pour être en mesure, secteur par secteur, de donner des résultats d'importance. Moi, j'en appelle au Conseil national de médecins à pouvoir s'approprier ce programme national de développement pour être en mesure de dire comment nous allons répondre à cette question de l'espérance de vie qui est quand même trop courte dans ce pays. Nous sommes très bas par rapport, y compris à des voisins. Il est important qu'on sache comment nous allons faire pour que, d'ici 15 ans, l'espérance de vie aille au minimum à 70 ans. Et ça, secteur par secteur, il y a du travail. Et à mon avis, un jour de plus de perdu, c'est un jour de trop. Il est important que les Congolais se rendent compte qu'en même temps que nous aurons les élections, la vie des Congolais continue. Et donc, il faut être en mesure de rester, non pas tactique, ceux qui réfléchissent au quotidien, mais stratégique, ça veut dire ceux qui se projettent dans le temps. Les personnes qui parlent et qui veulent conditionner le plan stratégique aux aléas des priorités du moment, ils continuent à avoir des enfants, leurs enfants continuent à grandir chaque jour, et il faudrait qu'ils posent des piliers de l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et ça, c'est dans le cadre stratégique. Et je voudrais dire une chose, un programme national stratégique n'a absolument rien de politique. Oh, il n'est pas que politique. C'est un programme national, c'est un programme multisectoriel, c'est un programme multipasse. Il est important que nous nous approprions ce programme, que nous le retravaillons et que nous en donnions une version définitive.
Professeur, vous êtes section GESPA 081-893-11 pour intervenir en direct.
Le débat politique, c'est dans un dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Prosper, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, Prosper.
Ok, ben je voudrais continuer dans l'espace des amis qui ont conditionné la réussite d'un plan de développement du Congo par la stabilité politique. C'est important que l'on le sache. On ne peut rien faire sur le plan de développement dans un pays où il n'y a pas de garantie de stabilité politique. Et de ce point de vue-là, j'aurais bien voulu que l'invité qui est au plateau se permette de nous faire plutôt l'évaluation du régime actuel qui est arrivé à sa fin. C'est quand même curieux de constater qu'alors qu'on est à 9 mois de la fin d'une législation, qu'on commence à projeter des choses qui viennent plutôt 30, 15 ans, 20 ans plus tard. On aurait dit, et surtout que cela vienne du bureau ou de la présidence. On aurait voulu que ça vienne peut-être d'un cadre de recherche scientifique, comme les universités. Qu'est-ce qui se cache derrière? Moi, je suis étonné d'apprendre cela. Et je continue, par exemple, à dire, j'aurais bien voulu que l'invité qui est au plateau nous donne plutôt des articulations techniques de ce plan. Parce que moi, je crois que l'année dernière, le ministère de l'Éducation a organisé un forum à l'Hôtel du Fleuve, dans lequel on a fait savoir qu'il y avait presque le tiers des Congolais qui étaient analphabètes. Alors moi, je me demande, ce plan de stratégie de développement, il met l'instruction, l'éducation à quel point de vue? Parce que je peux affirmer qu'on ne peut rien faire avec une population qui a plus de tiers des personnes, des hommes et des femmes qui ne sont pas instruits. Donc, j'aurais bien voulu qu'on laisse un travail à un leadership qui va venir. Parce qu'il sera de la responsabilité du leadership nouveau de concevoir des plans de combat et d'agir selon une vision. Je termine en disant vraiment que je suis étonné de constater qu'on arrive à la fin d'une législation et on se permet de donner une vision à ceux qui vont venir. Ça, moi, je comprends pas. Est-ce qu'il peut expliquer comment cela est possible?
Mais alors, vous avez soulevé des questions. Si jamais on ne vous a pas encore perdu, Prosper, vous êtes revenu à ce que l'invité disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas réussir à développer les pays si les tiers de la population est analphabète, comme vous l'avez dit. C'est quitte à savoir comment définir les mécanismes pour arriver à améliorer l'instruction et l'éducation. Mais d'autant, plus que vous posez cette question, lui, il insistait beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas tout politiser. Mais alors, pour vous, vous estimez que le plan aurait été, ça aurait été mieux si c'était sorti par une université ou le cadre qui ne sont pas impliqués dans la gestion politique, c'est ça, Prosper?
Parfaitement. J'aurais bien voulu qu'un plan pareil sorte des milieux apolitiques complètement pour que cela serve à des politiques, pour qu'ils puissent... En ce moment-là, ça n'aura rien à voir avec une législation X ou Y. Mais là, je suis étonné de constater qu'ils aident une législation qui a pas fait. Et du coup, une législation qui a du mal à rassurer la stabilité politique. Alors, moi, je trouve que ce plan est compromis par lui-même et par ses auteurs.
Merci beaucoup, Prosper. L'invité disait tout à l'heure que tout a été politisé, mais vous estimez quand même que la stabilité politique, elle joue un rôle très, très important dans la mise en place d'un tel plan. C'est effectivement, toutes ces impressions viennent du fait qu'il n'y a pas des assurances sur le plan politique. C'est de cette façon que le souhait présenté par Alki Tengue, que tout le monde puisse s'approprier le plan, risque d'être mis à mal par le fait qu'il n'y a pas des assurances sur le plan politique. Mais vous avez demandé à inviter s'il y avait une idée d'avoir des articulations techniques dans ces plans. Mais je disais tout à l'heure que les axes prioritaires ont été définis, quitte à savoir comment pouvoir les définir secteur par secteur, comme le disait tout à l'heure notre invité Alkitingue. Alkitingue, on revient à vous directement. C'est vrai qu'on a des petits soucis, des lignes, comme d'habitude, on ne pourra pas avoir beaucoup d'auditeurs d'un coup. Alors, ce qui fait que on patiente un peu avant qu'un autre auditeur puisse nous joindre dans cet échange. Alors, pour revenir dans ces débats politiques, c'est vrai, la stabilité politique, quand elle manque, ça ne peut pas faciliter la mise en place et la compréhension dans tel plan. Vous avez subi cette inquiétude. Alors, notre ami lui pense que si c'était l'émanation de milieux scientifiques, peut-être même de la société civile, ça pourrait être compris différemment. Et quand ça vient de la présence de la République dans un contexte de guerres, d'alternance, des changements politiques.
Vous avez vraiment raison, parce que nous sommes dans un pays où l'antagonisme fait la priorité, nous sommes les uns contre les autres, chacun veut être à la place de l'autre, et je ne crois pas que ce soit ça le débat. Mon débat à moi, c'est la nation d'abord. C'est pour ça que je dis, les gens qui sont au gouvernement et les gens qui gèrent le pays, ils géreront le pays jusqu'au dernier jour. Ils ont le droit de prendre des initiatives jusqu'au dernier jour de leur mandat dans le siège de pouvoir. Et donc, il faut leur laisser la liberté de pouvoir faire, y compris des choses qui peuvent être perçues comme étant faites en retard, mais qu'elles soient faites. Il n'y a pas de progrès dans l'inaction. Maintenant, je voudrais revenir sur la chose la plus importante. Ce programme n'est pas que politique. Ce n'est pas un programme politique. Ce n'est pas un programme d'un parti politique. C'est pour ça que j'en appelle à ceux qui le détiennent encore du point de vue des documents de le disponibiliser pour que les scientifiques se l'approprient, qu'ils le fassent ce que les Anglais appellent troubleshooting. Ça veut dire shooter dedans pour voir à quel point il est résistant et qu'on lui fasse des propositions complémentaires. Après, il y a un travail supplémentaire, je l'ai expliqué. C'est l'articulation verticale et horizontale et l'articulation géographique. Parce que le plan national n'est pas national que s'il y a des plans provinciaux, que s'il y a des plans communaux, pour rester en une certaine cohérence. Et donc, il y a beaucoup de travail au-delà de la politique. Après, si vous regardez ce programme, c'est un programme qui est censé être un programme social, ça veut dire développement humain, santé, éducation. Parce que finalement, de la productivité des hommes dépend la capacité du pays à pouvoir réussir. Et donc, encore une fois, le débat vient de s'ouvrir. Ce document est un document de base pour que nous commencions à parler entre nous. Laissez-moi terminer une chose. Dans ce pays, on passe trop de temps à parler des individus. Mais j'ai envie de vous dire que l'individu est mortel. La nation est éternelle. Il faut qu'on gaspille et qu'on investisse notre temps à parler de la nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui met les gens en désaccord? Les individus, encore une fois. J'aime celui-là, je n'aime pas l'autre. Ce qui devrait nous mettre d'accord, que vous soyez de gauche ou de droite, que vous soyez rouge ou bleu, c'est la nation. Quelles sont les choses qui sont fondamentales au-delà des couleurs politiques?
Voilà, nous avons écouté Bernadette Kinshasa, mais quand je regarde dans ces documents, la stratégie, on dit que la mise en œuvre du plan passe par quatre exigences énumérées. Il y a quatre exigences. Il y a d'abord la gouvernance du haut niveau pour le suivi, le contrôle et l'orientation impliquant la présidence de la République, la mise en œuvre d'un fonds national d'investissement en vue de mobiliser les financements pour les projets importants, la mise en place d'une cellule chargée de montage et de la gestion des projets bancables, implication également de la présidence de la République dans le suivi. Et quand vous regardez déjà les orientations, les grandes orientations, effectivement, il y a cette absence de la base. Déjà, ça pose un problème. Vous souhaitez que les plans puissent aller jusqu'au niveau de la base, mais dans la conception déjà, vous voyez, on évoque plus le haut niveau. C'est que la population risque de comprendre que c'est une affaire qui va considérer la présidence de la République, la gestion des fonds, l'argent, et tout ce qu'il y a eu déjà comme problème dans des structures montées pour mobiliser des fonds. On sait comment ça finit souvent. Mais déjà, le plan, même quand on l'a présenté, il y a eu un silence sur le rôle de la base dans cette conception, dans ce qui doit être fait rapidement avant qu'on écoute nos auditeurs qui sont sur les antennes.
C'est pour ça qu'il est important qu'on disponibilise les textes pour que tout le monde les lise et qu'il donne des contributions. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément fondamental du document lui-même. Le document nous projette en 2030 à 2 000 $ par tête d'habitant de PIB. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 500. C'est suffisamment ambitieux, mais ce n'est pas assez ambitieux pour un pays comme le nôtre avec le potentiel que nous avons. Ça, c'est des questions sur lesquelles les scientifiques peuvent se prononcer en faisant des contre-propositions. Et si on a le temps et quand on le voudra, les gens ont des notions de base capables de pouvoir donner des orientations complémentaires, supplémentaires pour deux choses. La première, l'accélération des grands résultats qui peuvent stabiliser, parce qu'aujourd'hui, la grande raison de la multiplication politique, c'est la pauvreté, mais également le populisme, parce que tout compte fait, on n'a pas de solution concrète à un certain nombre de problèmes. Et du coup, nous avons une soixantaine de groupes armés. En fait, c'est des gens qui, derrière leur activité militaire, cherchent la survie. Et donc, si nous avons une activité économique de taille qui occupe les gens, même la paix va être une conséquence. On ne peut pas fabriquer la paix sans argent, dans la pauvreté. La paix est une conséquence d'une création de richesses partagées.
Mais non, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai que, vu la configuration actuelle de notre situation, vous comprenez pourquoi les gens sont très inquiets. Ils lient les plans à la politique, ils estiment que ça peut être aussi monter les enchères alors qu'on est en fin de mandat. Notre invité insiste beaucoup sur la dépersonnalisation, bien sûr, de cette conception du projet d'avenir. Pour vous, Bénin, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour que les priorités qui sont définies dans ces plans puissent être matérialisées, Bénin? Vous êtes ici avec Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. L'invité veut dépersonnaliser, mais ça, c'est un message qu'il fallait d'abord passer de l'origine du plan, ceux qui ont produit ce plan, donc à part la présidence. Comment la majorité s'approprie ça pour éviter la dépersonnalisation? Parce que ce qui est important dans ce plan, c'est qu'il peut servir la nation. Là, je suis d'accord avec lui. Pas par rapport aux législatives et qui sera tout ça. Quand c'est bien fait, même le président qui sera en 2030 et 35, comme ils ont, ils peuvent bien l'appliquer. Mais il faut qu'eux-mêmes d'abord, je dis eux-mêmes, pas par rapport à une version partisane, mais que la majorité fasse que ces plans ne soient pas maculés d'états politiques du type du jamais vu, tout ça. Vous avez quand même rappelé à l'invité qu'il y a eu manifeste de l'Ancelé qui définissait aussi ce soir. Bon, quand cela le fait, mon intervention en trois points. C'est sur le temps, comme tout le monde a dit. Les Anglais disent « time is money ». Aujourd'hui, les Chinois disent « time is your life ». Donc, le temps, c'est votre vie. J'estime que le retard avec lequel ce plan est sorti pourra faire que le peuple n'en saisisse pas le sens et l'importance. Vu que tout le monde aujourd'hui, population, opposition, majorité, s'occupe du préalable de l'actualité électorale. Et à part ça, moi, je pense que les initiatives du gouvernement sont bien, même de la présidence, mais le problème, c'est que comment s'y prendre? Est-ce que le peuple s'était approprié surtout du DCRP première génération, deuxième génération, 5 janvier 2006, révolution de la modernité 2011, tout ça? Qu'a fait l'initiation à la nouvelle citoyenneté? C'est pas seulement apprendre aux élèves l'hymne national à réciter, mais aussi rassembler les étudiants, les intellectuels, pour leur faire comprendre la quintessence de tous ces programmes. Parce que si la population n'a pas compris DCRP première et deuxième génération, on n'a pas les effets des 5 chantiers 2006, On n'a pas saisi aussi dernièrement la révolution de la modernité. Comment ils peuvent être motivés pour s'en saisir du plan stratégique dont il est en train de démontrer l'importance? Et puis, il y a aussi un aspect très important. On ne peut pas développer un pays insécurisé. Hier, j'ai suivi votre émission Dialogue entre Congolais. Est-ce que vous savez qu'il y a 40 ou 45 policiers qui sont tués en deux semaines quelque part à l'est là-bas, et ils ont même quitté cette place-là parce qu'il y a les troupes armées qui les abattent à tout moment. Imaginez quel est le niveau de sécurité de ce peuple abandonné à lui-même par les policiers qui quittent les sous-fiats parce qu'ils sont régulièrement abattus par les groupes armés. Est-ce que ce peuple peut comprendre qu'est-ce que le plan stratégique du président de la République? Donc il y a de préalable, un pays insécurisé n'a pas vraiment la chance d'être développé. Et aussi, même quand on parle des élections, c'est un facteur aussi de développement. Parce que le peuple voudrait, par exemple, dire que non, on n'a pas vu de réalisation par tel, nous pouvons aussi donner le pouvoir à tel, tout ça. Donc, ce plan stratégique est important pour moi, je conclue, mais les préalables le plus important, et le gouvernement, surtout ceux qui sont en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, devraient s'en approprier, bien qu'en retard, mais ce retard est très important parce que le peuple ne peut plus le comprendre comme on est agité avec des situations électorales.
Merci beaucoup, Bénin. Il y a une corrélation entre, bien sûr, l'interprétation de la période, bien sûr, par rapport à la publication de ce plan. Mais j'ai retenu quand même un élément important que vous avez dit. Il ne faudrait pas que ceux qui ont conçu le plan puissent les politiser. Cela veut dire que le plan ne devait pas être conçu comme une propagande politique. Dès lors que les concepteurs du plan vont les considérer comme une propagande politique, et automatiquement, on aura beaucoup de difficultés de pouvoir fédérer toute la nation autour de ce plan. Mais quand même, notre invité, le disait, ceux qui ont conçu le programme des cinq chantiers, de la révolution de la modernité, devraient aussi revenir pour pouvoir faire une évaluation en bilan. Et tout ça, ça peut donner confiance. Mais je pense que ce sont les mêmes personnes qui ont conçu le plan des cinq chantiers pour le mandat. Ce sont les mêmes qui ont conçu le plan stratégique. Alors, il faudrait vraiment un grand travail en amont pour permettre à ce que la base soit impliquée dans la compréhension de ce plan. Je crois qu'il y a un autre auditeur, la réalisation me fait signe, qu'un autre va. Voilà, il y a Madame Célestine. Vous êtes ici à Kinshasa, je crois bien, Madame. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur.
Et on vous écoute, oui. Madame.
Je voudrais intervenir par rapport à ce que votre invité a dit tout à l'heure, qu'on ne devrait pas tout lier à la politique, mais je suis désolée. Je crois que la vision de développement d'un pays, c'est réfléchi par le politique. Bien sûr, il doit se faire aider par les différents experts dans tous les domaines, mais ce sont les politiques qui ont une vision du développement du pays et qui mettent en place le plan pour réaliser cette vision-là, ainsi que les moyens qu'il faut pour réaliser ce plan. Quand il a parlé de l'espérance de vie des Congolais, et en disant que les médecins ou l'ordre des médecins, je ne sais pas, doit réfléchir à quelque chose, mais je regrette que ce ne sont pas les médecins qui vont aller construire des hôpitaux dignes de ce nom à travers le pays, les équiper comme il faut et assurer aux personnes qui vont y travailler d'être dans des bonnes conditions de travail. Et quand, par rapport aux investissements pour le développement, que ce soit les nationaux, que ce soit les étrangers qui pourraient venir investir dans un pays, ils viennent investir que quand ils ont confiance, et la confiance vient justement de la sécurité, de la politique, aussi bien par rapport à l'économie que par rapport à la politique même du pays. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire.
Oui, madame, mais si bien on a écouté, quand il disait aux médecins de pouvoir réfléchir, ça veut dire que quand on a un plan national, s'il faut aller par secteur, on peut dire aux architectes, qu'est-ce que vous proposez comme piste des solutions pour arriver à atteindre tel objectif? Dans ce sens, il disait que les experts dans leur groupe peuvent fournir des voies et moyens, quitte aux politiques, de pouvoir mobiliser alors des fonds, mais les stratégies peuvent être définies par l'ensemble de la communauté.
Oui, c'est justement ce que j'ai dit. On fait appel aux experts, mais le moteur de cette vision, de ce plan de développement, c'est quand même les politiques. Parce qu'au niveau des politiques, on a différents ministères qui ont chacun une spécificité, avec des experts qui sont là pour dire, ils connaissent, eux, ils ont un plan un point de vue général de ce qui se passe au pays. C'est vrai qu'il faut faire appel aux experts pour leur demander de donner leurs avis sur des points bien particuliers, par exemple pour les équipements, pour l'organisation. Mm-hmm. Mais le plan général, c'est les politiques.
Voilà, donc ça, c'est, on ne peut pas mettre
les politiques à côté pour dire qu'ici, voilà. On réfléchit tout sur la base de politique. Alors là, je ne suis pas d'accord.
Merci beaucoup, madame. Vous estimez qu'on ne doit pas tout... on ne doit pas écarter vraiment les politiques, hein, leur rôle. Il est très important, surtout en ce qui concerne ce souci de pouvoir s'approprier ces plans. Antoine, vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Antoine, bonjour et bienvenue dans cet échange. Antoine, vous êtes avec nous?
Oui, allô, bonjour.
Voilà, on vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres, Antoine, votre point de vue.
Merci pour la parole. Hein. C'est ma toute première fois que je parle aujourd'hui à la radio Capi. Je vous suis tous les jours... maintenant, je suis très content.
Merci, c'est bon.
Je viens de suivre les thématiques, c'est très important. Moi, je voudrais tout simplement signaler aux politiciens, c'était aux gens qui viennent à la radio pour défendre certains politiciens. Vous savez, le plan de développement, c'est à partir de votre mandat, quand vous prenez votre mandat, c'est à ce moment-là que vous fassez votre plan de développement. Il y a eu les 5 chantiers, de l'eau, de l'électricité, bon. Les prédécesseurs ont déjà tout dit. Le développement sans l'eau, sans l'électricité, j'ai entendu le plan de développement industriel. Comment est-ce qu'on peut faire un développement industriel sans l'électricité? Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'emploi. Il y a le chômage. Les autres ont déjà dit. Et justement, à la fin du mandat, on trouve un autre moyen de faire un plan de développement. Est-ce que ce ne sont pas les ingrédients qui accompagnent au glissement? Où on fait ce plan de développement peut-être pour je ne sais pas. Un plan de développement national, c'est bien, mais...
Dommage qu'on a perdu Antoine. Al-Kitenge, je crois que c'est ça la grande difficulté aujourd'hui. L'un de moi, l'idée de vous présenter comme les défendeurs du plan, à moins que vous ayez participé à la conception du plan. Mais dis-moi, vous comprenez la difficulté aujourd'hui qu'on a à faire passer le message, c'est réel. Les gens, toutes les vérités politiques, c'est lié à tout ça, ça devient des fois difficile. C'est pourquoi tout à l'heure, notre ami Benabizé, qui est le concepteur du plan eux-mêmes, ils doivent éviter de les politiser, ni de les présenter comme une propagande de division. Sur le plan de la propagande, ça va être très difficile que ce soit compris. Et c'est ça même la difficulté que les gens ont aussi difficile à comprendre, c'est que vous présentez comme vision, si je peux dire, rationnelle, par rapport à cette compréhension.
Pierrot, vous êtes une personne extrêmement vicieuse. Votre nom, c'est Elamey. J'ai envie de dire au Congolais, Elamey, réfléchissez. Nous avons été pendant très longtemps frappés par le court-termisme. Mmh. On arbitre au quotidien. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore déterminé où il va dans toutes les directions. Quelqu'un qui n'a pas son plan pour construire sa maison, il ne peut pas bien la construire. Sinon, il la construira, il la détruira, il la construira, il la détruira encore. Ce que je voudrais dire encore aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les Congolais se réveillent. Nous avons un héritage politique qui nous a appris à accepter des choses des fois inacceptables. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, et je voudrais le dire en langage clair et simple, si nous avons un plan national stratégique de développement qui détermine les ambitions des Congolais et qui dise ce qu'il y a à faire, ce plan va permettre de montrer la difficulté des tâches qu'il y a. Alors, tous les aventuriers qui pensent qu'ils peuvent se protéger ou se cacher dans la politique, tous ces prétendants politiciens, ministres des fois, qui n'apportent aucune valeur ajoutée au travail de la nation, vont avoir peur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a à faire est connu et mesurable. Et donc, du coup, même le casting, les gens qui vont devoir se proposer pour faire des choses, vont savoir que nous avons un élément de mesure. La difficulté de notre pays, c'est qu'il a toujours été un pays qui donne un chèque en blanc aux politiciens. Au point que chacun vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Après, quand vous lui posez des questions, il dit « Mais moi, je fais ce que j'ai dit que je devais faire. » Quel est le contrat social entre la population et les gens qui prétendent nous diriger? Le plan stratégique national de développement devrait nous appartenir, nous devrons le prendre pour être en mesure de l'opposer à quiconque voudrait nous gérer. En lui disant, est-ce que dans le temps imparti, avec les moyens moyens qui sont acceptés, avec les procédures de gouvernance qui sont acceptées, est-ce que vous êtes en mesure de donner des résultats? Et ça nous permettra de dire aux gens, monsieur, vous n'avez pas été capable, il était question que vous fassiez ceci et vous n'avez pas été en mesure de le faire. Ça voudrait dire qu'en fait, les dirigeants qui viendront n'auront pas nécessairement 100% les mains libres, ils auront au moins la version du peuple. Ce que le peuple attend, ce que la population congolaise attend en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement humain, en matière d'infrastructure. C'est pour ça que j'incite qu'il est urgent et le plus rapidement possible, quel que soit cosmétiquement le nom que l'on donne au document, qu'on le donne au peuple pour que celui-ci soit en mesure de lui donner toutes les différentes couches qui probablement lui manqueraient ou qui devraient être réorientées. Afin que demain, chacun, quand on regarde ou quand on regarde ce document, on se dise, c'est le document de la nation. Et moi, mon souhait est beaucoup même plus loin, c'est de dire, pourquoi ne pas un jour en faire un document légal, ça veut dire une obligation de ce qui doit être fait dans les 30 prochaines années, afin qu'on ne laisse pas la liberté aux gens de venir aller à gauche ou à droite en fonction du fait qu'ils sont arrivés au pouvoir. Je voudrais vous dire une chose. Les politiciens dans ce pays ne représentent même pas 5% de la population. Ça voudrait dire qu'en réalité, ils sont l'émanation de la population. Et je voudrais vous dire que la plus grosse faiblesse de notre pays, c'est l'opinion publique. Les Congolais démissionnent. Dès que les gens accèdent au pouvoir, on ne leur pose même plus des questions. Même les mécanismes classiques qui sont censés nous permettre de pouvoir les contrôler, nous les laissons.
Mais la grande difficulté, comme je le disais tout à l'heure, Bénin, c'est que des experts coréens sont venus, ils ont aidé les experts congolais, ils ont présenté le projet parce que le chef de l'État avait demandé aux Coréens de quelle manière vous arrivez à vous développer. Le président coréen lui a dit, voilà, je vais mettre à votre disposition d'ici 2011 des stratèges qui vont réfléchir avec vous. C'est pourquoi Bénin disait tout à l'heure, déjà dans la démarche, quand on amène auprès de gens qui doivent s'approprier une idée, quelque chose conçu par d'autres personnes, ils vont tout de suite ils vont dire, mais écoutez, ben, non, moi je suis chez moi en Agica, mais ben, les gens de Kinshasa viennent et ils me disent, voilà, vous développez, voilà ce qu'il faut faire sans que je sois associé. C'est pourquoi il a insisté beaucoup sur le fait qu'il faudrait à un certain moment qu'on ait des mécanismes, peut-être que cela est produit par la présidence, pour que les gens à toutes les couches de la population soient impliqués, plutôt que ce soit quelque chose d'étranger qu'on leur amène et que tout de suite on dit, mais bon, c'est une histoire qui ne nous concerne pas, ça a été amené par des experts coréens, congolais, et
Pierrot, on s'en fout. Pierrot, la première des choses, c'est de diffuser le document. Les gens ne connaissent même pas la qualité du document. Il faut donc qu'on le diffuse, que les gens aient la possibilité déjà de le comprendre et de le lire correctement. Deuxièmement, je l'ai dit de manière claire depuis le début. Après, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a du travail sectoriel à produire, il y a les corrélations qu'il faut mettre en place, et il y a un travail d'ancrage géographique. C'est extrêmement important. C'est à ce niveau-là que l'on va savoir, quand on dit plan national stratégique de développement, qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en Gandajika? Et qu'est-ce que ça veut dire quand je suis à Moussono et à Komezi? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis à Tchela? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis à Pumbu? Et ça, c'est extrêmement important. Il est important que les gens se rendent compte que au moins, nous avons un premier document de réflexion. Il faut le prendre ainsi et être en mesure de savoir comment on peut l'améliorer, comment on peut l'enrichir.
Donc, alors, on va écouter Eric, on va revenir à vous pour conclure. Eric, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Eric et bienvenue. Oui, Eric, déplacez-vous un tout petit peu. On a des petits soucis de ligne avec vous. Allez-y, Eric, on vous écoute.
D'accord. Là, vous m'entendez mieux?
Oui, c'est mieux maintenant. Allez-y, on a une minute, Eric.
Ok. Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité Alkitemi.
Bonjour.
Bon, j'ai entendu ce que M. Al vient de dire. M. Al, vous voyez, juste là, ça est quand même assez, on va dire quoi, c'est, on va dire, bonjour là, pour reconnaître comme ça. Votre proposition, Annie, regardez, tout le monde ne la refuse pas, mais les gens vous disent qu'elle est mal orientée, d'autant plus que les gens qui sont à l'origine de cette élaboration, ce ne sont pas des personnes qui bénéficient maintenant de la confiance du peuple. Le petit échantillon qui est en train de se prononcer, dont moi je fais partie en ce moment dans cette émission, vous fait comprendre qu'il n'y a pas de confiance. Moi, je vais revenir pour vous dire, je vais me porter à faux quand vous avez parlé de plan qui n'a jamais été fait depuis que le pays est pays, manifeste la CD. Et le CPP, c'est quoi? Moi, j'étais dans le CPP, j'avais 20 ans. Quand le CPP a été instauré ici par Kabila Désiré, j'ai accordé ce pays. Alors, dans les CPP, je vais aller rapidement, dans les CPP qui servent des comités du pouvoir populaire, j'espère que le président...
Allez-y, rapidement, Eric, oui.
Ah, oui, alors, dans les CPP, c'était juste la vraie proximité. Donc, il y avait des comités qui venaient vraiment de la base, le comité de la rue, le comité,
de couper quelqu'un de santé comme il existe.
Oui, Eric, on a des petits soucis. Vous avez dit tout à l'heure que le problème, c'est que l'orientation pose problème parce qu'il y a un problème de crise de confiance qui s'installe maintenant. Vous avez évoqué les cas du comité des pouvoirs populaires avec le fait président M. Laurent Désiré Kabila, où déjà les gens réfléchissent au niveau de la base pour proposer des pistes et des solutions. On revient à vous, parce qu'on doit conclure cette émission. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui oui, voilà, c'est un message. Un auditeur qui disait que, oui, c'est vrai. Est-ce que pensez-vous que demain, on a des élections, une autre personne arrive, chacun a sa vision, on ne pourra peut-être pas dire que non, voilà, ce document, il n'est pas opposable à tout le monde. Je peux aussi réfléchir de ma manière pour dire, voilà, ici, il y a des erreurs, mais c'est de cette façon qu'on peut s'en sortir rapidement pour en une minute et demie pour terminer cette émission.
D'abord, moi, je voudrais dire que je suis politiquement incolore et donc j'agis ici en tant que stratège et analyste. Je donne un avis scientifique. Et à l'avis scientifique, n'importe qui peut être en mesure de donner le sien, je respecterai. La seule chose que je dis, et elle est très, très importante, c'est que nous n'avons effectivement jamais eu un plan stratégique, que ça plaise, pas, c'est malheureusement la vérité. La deuxième des choses, et je le dis, c'est que, oui, on peut assujettir cela à des contraintes locales qui sont très politiques en ce moment, mais j'ai appelé, en utilisant votre nom, les Congolais à un peu plus de vigilance, à un peu de réveil. Il est important que même les élections qui viennent soient soumises à un casting qui est parallèle à ce que nous désirons faire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore une convention collective qui détermine ce que nous désirons réellement faire. Et je pense que c'est là le mérite du plan stratégique national.
Merci, Al-Kitingi, analyste économique et stratège. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter à ce sujet. Merci à toute l'équipe de production. Julien Mugambo était à la réalisation, la coordination. Julie Pézabongonda a assuré les contacts avec les auditeurs. Et Alain Goy était à la mise en onde. Bureau et la mise, vous la présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Le parole aux auditeurs sur www.radiocafé.net. Au revoir. Hello.